Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. À retardement est un thriller policier de Franck Tilliez, inscrit dans la série consacrée aux enquêteurs Franck Charcot et Lucy Endbell. Ce 14e volet, centré sur Charcot, articule une enquête criminelle en Seine-Saint-Denis et l'univers d'une unité pour malades difficiles. Le roman met notamment en scène Éléonore Huerdel, psychiatre confrontée aux conséquences professionnelles et personnelles de l'expertise psychiatrique. D'un côté, l'équipe policière découvre un homicide particulièrement troublant, dépourvu de traces exploitables. De l'autre, l'arrivée d'un patient délirant, obsédé par des vers et impliqué dans une agression, ouvre une piste inquiétante. Tilliez relie progressivement ces éléments sans réduire la maladie mentale à un simple ressort spectaculaire. Son objectif romanesque est double produire une intrigue à énigme. Dense et violente, tout en examinant la frontière entre troubles psychiques, dangerosité, soins et responsabilité pénale. Le livre prolonge ainsi les motifs caractéristiques de la série, où les investigations affectent durablement des policiers déjà marqués par leurs expériences passées. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une construction en puzzle qui fait converger des affaires disjointes. Le dispositif narratif repose sur plusieurs situations qui semblent d'abord sans rapport direct, un patient non identifié admis en unité pour malade difficile après une agression. Une psychiatre fragilisée par un traumatisme antérieur, une disparition, puis un meurtre dont la scène ne livre ni empreinte ni ADN, y compris ceux de la victime. Cette dispersion initiale ne sert pas seulement à différer la résolution. Elle place le lecteur dans la même position d'incertitude que les enquêteurs, obligés de distinguer les faits, les interprétations et les coïncidences apparentes. Les indices médicaux, matériels et biographiques acquièrent progressivement une valeur nouvelle à mesure que les récits se rapprochent. Le titre renvoie à cette logique de conséquences différées des événements passés. Des décisions administratives ou des traumatismes non résolus continuent d'agir longtemps après leur survenue. Le roman exploite ainsi une mécanique familière du thriller de Tilliez, mais adaptée à son sujet, la vérité ne provient pas d'une intuition isolée. Elle se forme par le recoupement patient de réalités fragmentées. Cette structure favorise les fausses pistes sans faire de la confusion une fin en soi. Elle donne également un poids dramatique aux détails, puisque les anomalies d'identité, les traces absentes et les comportements délirants doivent être interprétés plutôt que simplement constatés. Deuxièmement, la psychiatrie lourde abordée à travers le cadre des unités pour malades difficiles, à retardement situe une part importante de son action dans une unité pour malades difficiles. Structure psychiatrique sécurisée accueillant des patients dont l'ESTA impose une prise en charge particulièrement encadrée. Ce cadre permet au roman d'aborder la schizophrénie, les épisodes délirants, les traitements et la relation clinique sans les dissocier de l'institution qui organise le soin. La maladie mentale y est une source d'angoisse narrative, mais elle n'est pas présentée comme une explication automatique du mal ou de la violence. Le récit rappelle au contraire que les personnes concernées luttent avec une perception altérée du réel et qu'un diagnostic ne résume ni une identité ni une culpabilité. Le personnage d'Éléonore Huerdel donne une perspective complémentaire à celle de la police, là où les enquêteurs recherchent des actes, des mobiles et des preuves. La psychiatre évalue un état psychique, une vulnérabilité et une capacité de discernement. Cette opposition de méthode nourrit la tension sans imposer une hiérarchie simple entre médecine et justice. La documentation annoncée autour des pratiques hospitalières donne du relief aux procédures, au langage professionnel et aux contraintes de sécurité. Elle ancre surtout l'intrigue dans une question concrète: comment protéger simultanément les patients, les soignants et la société, sans transformer le soin en punition déguisée. Troisièmement, la responsabilité pénale comme conflit entre justice, expertise et souffrance des victimes. Le cœur éthique du roman réside dans la question de l'irresponsabilité pénale liée à l'abolition du discernement. En droit français, une personne dont le trouble psychique ou neuropsychique a aboli le discernement au moment des faits ne relève pas de la responsabilité pénale ordinaire. À travers cette règle, le livre ne cherche pas à fournir une réponse juridique définitive, mais à faire sentir les tensions qu'elle suscite. Pour les proches d'une victime, l'absence de procès pénal peut être vécue comme une négation de la gravité du crime ou de leur besoin de reconnaissance. Pour les soignants, elle impose de considérer un auteur de faits graves comme un patient nécessitant des soins et une évaluation continue. Pour les policiers, elle perturbe le désir légitime de désigner un coupable et de clore une enquête. Éléonore Huerdel incarne particulièrement le coût humain de cette position d'experte, car une décision techniquement fondée peut avoir des conséquences émotionnelles considérables. Tilliez évite ainsi l'équation simpliste selon laquelle l'hospitalisation équivaudrait à l'impunité. L'internement, les soins contraints et la surveillance constituent aussi des réponses coercitives, même si elles poursuivent une finalité différente de la peine. Le thriller transforme ce débat abstrait en conflit de regard, où compassion, protection collective, vérité judiciaire et mémoire des victimes ne coïncident pas toujours. Quatrièmement, les vers, le corps et art brut, comme image d'une perception du réel déformé, le motif des vers traverse l'intrigue sous des formes qui associent dégoût physique, délire et enquête médico-légale. Il ne relève pas d'un simple décor horrifique dans le cas du patient qui affirme les fuir. Il traduit une expérience du monde où une menace intérieure ou imaginaire devient indiscernable d'un danger réel. Le roman utilise donc le corps comme lieu d'incertitude. Les symptômes, les blessures, les traces biologiques et les objets retrouvés sur les scènes de crime doivent être lus avec prudence, car ils peuvent signaler autant une réalité matérielle qu'un récit falsifié ou une interprétation pathologique. Les références à l'art brut et à des œuvres liées à la folie prolongent ce questionnement. Elles introduisent des productions qui ne sont pas seulement des indices, mais aussi des tentatives de donner forme à une perception intime et désordonnée. Cette dimension artistique évite que l'univers psychiatrique soit réduit à la seule clinique ou au seul crime. Elle rappelle que les personnes internées possèdent une histoire, un imaginaire et une expression propre. Néanmoins, Tillier conserve les codes du thriller, sombres les images organiques entretiennent l'inconfort, tandis que les tableaux, objets et obsessions peuvent receler des informations décisives. Le livre joue ainsi sur une frontière instable entre symbole et preuve, entre ce que les personnages croient voir et ce que l'enquête peut établir. En dernier lieu, des enquêteurs vieillissants et vulnérables, au lieu de héros invulnérables, le retour de Charcot. Lucie Hennebelle et de leur équipe inscrits à retardement dans une continuité affective qui dépasse la seule affaire criminelle. Après, de nombreuses enquêtes. Les personnages ne sont pas figés dans un présent sans conséquence la fatigue, les deuils. Les blessures et les choix antérieurs influencent leur manière de travailler et de se protéger. Charcot apparaît comme un policier expérimenté mais usé par l'exposition répétée à la violence. Le roman accorde également une place notable à Nicolas Bélanger, dont les fragilités personnelles complexifient la dynamique du groupe. Cette attention à la vulnérabilité évite de présenter l'enquête comme une succession d'exploits techniques accomplis par des professionnels impassibles. Les policiers ont des compétences, mais ils doutent, prennent parfois des risques et cherchent des appuis dans une équipe qui partage les mêmes images traumatiques. Lucie, moins centrale dans certains développements, demeure un repère important dans cet univers relationnel. Pour les lecteurs de longue date, ces évolutions renforcent le sentiment que le temps passe réellement dans la série. Pour les nouveaux lecteurs, elles donnent une épaisseur humaine aux procédures et aux rebondissements. Le roman suggère enfin que comprendre la violence des autres ne préserve pas de ses effets enquêtés exige de maintenir une distance, sans jamais pouvoir l'obtenir totalement. En conclusion, À retardement s'adresse en priorité aux lecteurs de thrillers policiers sombres qui apprécient les intrigues à ramifications. Les scènes de crime éprouvantes et les récits où la résolution dépend de détails progressivement réinterprétés. Les familiers de Charcot et Hennebelle y retrouveront une équipe dont le passé compte encore, avec une attention accrue portée à Nicolas Bélanger et à la psychiatre Éléonore Huerdel. Le roman demeure toutefois abordable pour un lecteur qui découvre la série, à condition d'accepter que certains traumatismes et liens entre personnages renvoient à des épisodes antérieurs. Son intérêt dépasse le seul plaisir du casse-tête criminel. Il offre une entrée romanesque dans les enjeux des unités pour malades difficiles, de l'expertise psychiatrique et de l'irresponsabilité pénale, tout en rappelant que ces questions engagent à la fois les patients, les soignants, les enquêteurs et les victimes. Cette documentation ne transforme pas le livre en essai, elle sert une intrigue tendue, structurée par des anomalies de preuves, des identités incertaines et une inquiétude corporelle persistante, par rapport à de nombreux thrillers utilisant la folie comme explication commode. À retardement se distingue par sa volonté de maintenir une tension entre soins et sécurité, sans confondre systématiquement maladie mentale et monstruosité. Sa singularité tient aussi à la convergence méthodique de plusieurs récits et à l'usure crédible de ses héros récurrents. Il conviendra moins aux lecteurs sensibles aux descriptions violentes ou aux images organiques, mais offre un polar dense, informé et moralement inconfortable. Si vous souhaitez soutenir Franck Tillier, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.